Evelyne Pagès, grand format, aujourd'hui Michel Sardou. C'est vrai, parfois, j'ai eu peur en écoutant des chansons et je t'ai posé un jour la question. Tu m'as dit, je suis allée trop loin. Donc, tu as conscience que les gens s'identifient. Bon, quand tu dis, je veux violer, non pas violer des banques et crucifier des filles, mais l'inverse.
Pas à ce point-là. Je veux les violer. Mais c'est faut pas. Il faut que tu te mettes dans la peau d'un type qui écrit une chanson. Je crois qu'il la conçoit. Ce que les gens ne savent pas, c'est comment se fait une chanson. Ça se fait comme un scénario de film. Ça se fait comme une histoire qu'on raconte. Le soir à table ou qu'on s'invente dans la tête. Moi, j'étais rêveur, donc quand je m'invente tout le temps des personnages, des histoires. J'ai jamais vécu ma vie réelle, si tu veux. Je fais semblant. Donc, quand j'ai écrit, parce qu'il faut rappeler ça à l'époque où c'était, quand j'ai écrit Les Villes de Solitude, venait de sortir un film qui s'appelait Orange Mécanique. Tu te rappelles d'Orange Mécanique, tout le monde avait été frappé par la violence de ce film qui maintenant passe pour un patronage de premier degré.
La cruauté.
La cruauté, la méchanceté gratuite, etc. Donc je suis sorti de ce film, marqué forcément par ce film. Je suis rentré chez moi, comme j'écris tous les soirs des textes qui servent ou qui servent pas, je suis sorti impressionné par la violence de ce film. Donc j'ai fait une chanson film, en fait, la chanson que je venais de voir. Bon, là, la chanson d'après, l'histoire que je venais de voir. Donc j'ai fait la même, mais bien entendu, c'est pas personnel. C'est comme si tu disais au personnage qui a joué dans Orange Mécanique, est-ce que c'est vrai que vous tapez sur cette fille et que vous rendez le type paralysé? Il joue un rôle, donc nous c'est pareil.
Donc tu es un acteur de tes chansons.
Mais comme tous les auteurs de chansons, comme tous les chanteurs en fait, ce sont en fait des acteurs avec un orchestre en dessous. Ils jouent tous des personnages, excepté dans des chansons, alors... genre, je t'aime, mon amour...
Tu es aussi un chanteur, chanteur d'amour réaliste, un peu dans la tradition de... Je sais pas si je pouvais faire une comparaison, un Piaf d'aujourd'hui, un homme...
Mais Piaf, c'est exacerbé, c'était pas des sentiments de femme qu'elle avait, c'était des sentiments de monstre.
Ah, de monstre, pas d'homme, pas de mec, je crois que c'est dire de
non, non,
mec.
Non, parce qu'au contraire, elle était... C'était toujours dramatique, ces histoires d'amour. Elle irait jusqu'au bout du monde, elle se ferait teindre en blonde, si tu me le demandais, elle aurait fait n'importe quoi. Pour son âme, elle l'avait dans la peau, enfin, c'est une femme à tripes. Apportez-moi le café.
Est-ce qu'un homme ferait n'importe quoi pour une femme? Est-ce que Michel Sardou ferait n'importe quoi pour une femme?
Ça, c'est difficile de te répondre. D'abord, il faudrait que je rencontre une femme qui me fasse faire n'importe quoi. C'est difficile. Tu ferais faire n'importe quoi à un homme?
Qui ne le diminue pas, oui.
Mais tu sais pas, n'importe quoi. Faut pas commencer à mettre des bornes. Si tu dis, est-ce que vous êtes capable de faire n'importe quoi?
Oui.
Est-ce qu'aimer à la folie, c'est possible? C'est donné à peu de gens d'aimer à la folie. Le grand amour, le véritable amour, l'amour fou, l'amour romantique, l'amour qui fait les films, l'amour qui fait les romans, il arrive dans les films, dans les romans, mais sur la vie de tout le monde, de tous les jours, dans ce que nous sommes, les pauvres hommes que nous sommes, c'est de l'amour normal, c'est de l'amour qui se transforme en habitude, qui devient joli, qui est beau, qui est au début, qui tord l'estomac. Mais c'est très difficile, l'amour Roméo-Juliette. Hein.
Non, je crois que le mariage transforme.
Ah non, c'est même pas là, je parle même pas au niveau institution, là. Je parle tout simplement, regarde le nombre de on a tous changé de fiancé. L'amour éternel, par exemple, c'est très rare de voir des gens qui se sont aimés 40 ans. 40 ans d'amour, ou 50 ans d'amour, ça arrive, hein.
Passionnément,
je veux dire, sans... Tous les jours, on aime autant, hein. Ça, c'est vachement dur, ça, c'est donné à des gens exceptionnels.
C'est dans la littérature, peut-être.
Je sais pas, ça doit arriver dans la vie.
Il faudrait qu'ils nous écrivent, ceux qui ont...
Mais je suis sûr qu'il y en a.
Grand format, Michel Sardou. Tu parlais de cette violence que tu avais mise dans une chanson. Moi, je pense qu'elle remonte à l'enfance, cette violence. Je voudrais que tu écoutes le témoignage de ton professeur Dumoncel.
Ce qui m'a frappé dans les quelques semaines où je l'ai eu en classe, c'est un contact tout à fait direct, un garçon qui vivait son adolescence un peu de plein pied avec, si vous voulez, la musique de Verlaine et la violence de Rimbaud. Des qualités qui laissaient entendre qu'il y avait un tempérament musicien, indéniable, un sens de la langue, des images, des rythmes, des phrases, bien que il y ait des lacunes grammaticales.
D'orthographe, oui. D'orthographe, oui. J'étais sûr qu'il allait dire ça.
Mais qui c'est ?
Non, c'était mon prof de français, certainement. Berthier, non ?
Baudin.
Ah, Baudin, il a changé de voix, dis donc.
Non, parce que c'était la radio, alors il a dû
répéter. Parce que Baudin, c'était un excellent prof de français, parce que c'était le seul qui vendait Rabelais, tel que Rabelais a vécu, tel que ce que voulait, avec le ventre. Si j'ose dire Rabelais, pour moi, c'était les tripes, c'était ça. Alors lui, nous le vendait très très bien.
C'était sensuel.
C'était, oui, non, c'était pas chiant du tout. Puis on avait le droit de s'éclater, on avait le droit de dire des... On avait le droit d'avoir des idées, ce qui est rare avec un prof de philo ou avec un prof de français. Il faut toujours rentrer dans les canons normaux. On ne peut pas avoir tellement de personnalité à l'école. Avec lui, on pouvait en avoir. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a des fautes d'orthographe. J'en fais toujours, d'ailleurs.
Il t'a fait sauter une classe aussi.
Oui, je suis passé de la quatrième à la seconde.
Mmh. Il te trouvait très mûr par rapport aux autres.
J'étais un génie.
Il nous écoute, hein, monsieur Baudin.
Je suis très content. Je le salue parce qu'il m'a fait vraiment aimer toute la littérature. Et c'est lui qui m'a donné l'amour du théâtre, en plus. Parce qu'il jouait. C'était un professeur acteur. Mmh. Et drôle, en plus. Il avait beaucoup d'humour.
Alors, tu vois, ça, c'est la première photo grand format de Michel Sardou. Michel Sardou, donc, adolescent. Tu as vécu ton adolescence d'une manière heureuse, dans une école libre, j'ai l'impression. Donc, tu as parlé dans une chanson.
C'était un collège, une pension. J'étais en pension. Et c'était un collège où j'aurais bien voulu mettre mon fils, d'ailleurs. Parce que c'était très en avance à l'époque sur ce qu'on faisait. Parce que le sport était aussi important que les études traditionnelles. Et on ne travaillait que le matin. Et l'après-midi, on faisait du sport toute la journée. Ça, c'était génial.
En
plus,
on était
assez libre. Il n'y avait pas de pion. Il n'y avait pas de... Il fallait pas se faire piquer, quoi. On était tout de suite... sa personnalité, la personnalité des jeunes qui étaient là-dedans pouvait s'épanouir tout de suite. Bon, les bons, les mauvais éléments, tout ça, bon, on peut juger selon des critères un peu qu'ont les professeurs. Mais là, au moins, il y avait une responsabilité chez les enfants tout de suite. Il fallait qu'ils fassent le poids tel jour à telle heure. Quoi. S'ils passaient l'examen, ça allait. C'est ce que j'ai fait, moi. Mm-hmm. Ou sauter les classes, il fallait le demander. Mm-hmm. À ce moment-là, ils acceptaient, puis il fallait travailler l'été. Bon, mais on avait le droit de prendre des risques.
Et les responsabilités très tôt, donc.
Ce qu'il y avait de bien dans ce collège, parce que c'est bien de parler de ça, ce qu'il y avait bien dans ce collège et ce qui se perd, c'est qu'on avait nos profs à nous. C'est-à-dire les profs étaient concurrents. Au même titre qu'ils étaient dans les équipes de foot, de hockey ou de handball, bon, c'était, ils étaient avec nous, on s'engueulait, on avait des rapports très violents avec les profs, c'est-à-dire c'était, on pouvait parler, on pouvait l'ouvrir, on pouvait, avec Baudin, je me suis engueulé 10 fois.
Avant mai 68, ça existe.
Ah oui, bien avant.
Bien avant la fameuse communication.
Et c'était très agréable, ça avait, on était quelqu'un. Tu commences à dire, alors que très souvent dans les écoles, on est un élève parmi tant d'élèves, on a le droit de fermer sa gueule, et puis c'est tout, le professeur a toujours raison. C'était un peu ça, moi, de mon temps. On discutait pas. Alors que là, dans cette école-là, au contraire, alors c'était des... Ça, c'était très sympa. Et Baudin était assez violent aussi. Un très bon joueur de hockey, très méchant sur le terrain.
Si tu avais un conseil de père à donner à des auditeurs qui sont parents et qui nous écoutent, tu leur dirais, faites des sacrifices, mais envoyez vos enfants en pension à un certain âge.
Ça c'est très différent, parce que tu sais, moi j'ai quand même été très privilégié, j'étais dans une bonne pension, qui a coûté une fortune à mes parents d'ailleurs, parce que ça coûte très cher, c'était une pension quand même, il fallait que les parents soient quand même un petit peu riches pour envoyer leurs enfants là-dedans. Alors donc j'ai été très privilégié, mais par contre avant j'avais fait d'autres pensions, où là c'était la vraie pension minable, la bouffe dégueulasse, les grands dortoirs, le pion, le côté on gratte sur le pain, on gratte sur le beurre pour finir les fins de mois, comment c'était ça. Alors ça par contre je le déconseille. Puis tu sais ça dépend du tempérament, moi j'étais bien en pension, vivre avec d'autres me gênait pas, il y a des enfants qui supportent pas de vivre en groupe, d'être...
Il y a pension prison et pension...
Voilà, moi j'étais dans une bonne pension. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai eu cette chance-là. Ça compte aussi beaucoup pour quand tu me parles d'adolescence heureuse. Ça compte aussi. Bon, mon père était pas riche, si tu veux, mais il a tout fait pour que j'aie une éducation, que j'aie quand même un confort. Et ça, c'est quand même important pour le départ d'un enfant.
Oui. Ton père et ta mère, justement, qui sont des artistes, des saltimbanques avec un grand S, de grands artistes, puisque tu es issu d'une dynastie de comédiens, c'est la troisième génération, hein, Sardou.
Oui, plus ceux qui faisaient ça le dimanche.
ton père et ta mère, donc, ont tout fait pour que tu aies une éducation bourgeoise, classique, forte. Malgré, bon, peut-être certains petits reproches que ta mère pouvait te faire, et écoutons-la d'ailleurs.
Il a un caractère de cochon, il est très très très, pensez-vous, si j'avais un fils parfait, mais ça serait pas drôle, ma pauvre chérie. C'est épouvantable, les gens parfaits, on s'ennuie, il faut se méfier. ça cache quelque chose. Non, non, il y a sûrement beaucoup de critiques à lui faire. Il est très emporté, il est coléreux, il est comment dirais-je...
De mauvaise foi.
Il y a des jours, faut comme était son père, du reste, contrairement à ce qu'on peut penser, Fernand était très, très emporté. Il y avait des jours avec, il y avait des jours sans, mais comme moi, pareil. Comme vous aussi, sûrement.
Tu acceptes la filiation, tu es le portrait de ton père, ou tu es le portrait de ta mère?
Écoute, qui n'a pas... Dire, alors, faut voir la différence entre mauvais caractère et du caractère. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit.
Ah, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, il a du caractère.
Oui, du caractère. Alors, et qu'est-ce que tu veux? Je pense que je suis moins... Je suis pas de l'avis de ma mère. Mon père était pas un emporté. C'est elle qui le mettait en colère. Mais c'était pas un emporté. Il était beaucoup plus doux que moi. Il était plus calme que moi. Bon, il avait des grosses colères comme tous les méridionaux, mais des colères qui retombent tout de suite, comme des coups de vent. Moi, disons que je suis plus incisif. J'ai l'impression que je suis plus tenace que mon père, disons. C'est peut-être la différence. Alors, ma mère, elle est là. Alors, un caractère épouvantable. Non, ma mère est parfaite.
Elle est merveilleuse.
Elle est formidable. Elle a une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'elle a un humour fou et qu'avec moi, elle n'a jamais été une mère. C'est-à-dire... ce que j'appelle, vous savez, les mères poules ou les mères toujours derrière soi. Bon, elle tremble toujours, parce que quand on fait quelque chose, elle tremble tout le temps, mais au moins elle laisse faire. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont quand même laissé faire ce que j'ai voulu. J'ai voulu chanter, j'ai été chanteur, j'ai voulu partir, je suis parti, j'ai voulu vivre ma vie, me marier très tôt. Ils m'ont dit, c'est une connerie, j'aurais d'ailleurs mieux fait de les écouter à ce moment-là, mais au moins ils m'ont laissé... vivre la vie que je voulais vivre, que j'avais choisie, sans qu'il y ait de tradition familiale, sans qu'il y ait le fameux ton père. Bon, il n'y avait pas de. Ils n'étaient pas moralisateurs ni l'un ni l'autre. Ma mère, pas du tout. Elle vit très, très, très librement, elle est très marrante, elle est moderne, elle suit. Bon, alors ça, c'est bien. Ça, c'est un avantage gigantesque. Parce que dans ce métier-là, très souvent, les pères artistes disent à leur fils, ne fais pas ce métier-là. Très souvent. Moi, au contraire, alors, dès que j'ai dit je veux faire le saltimbanque, alors, au contraire, ça a été un cri de joie. Et j'ai été aidé. C'est assez rare, ça.
Ton père était acteur, et puis voilà que maintenant... Tu continues dans cette voie. Tu as fait un premier film avec Marcel Julien,
oui.
Dont tu étais à moitié content, d'ailleurs, tu l'as toujours dit.
Oui, oui.
Mais ça t'a confirmé ton envie, ton goût d'être comédien, ton goût à toi.
Tu sais, je sais pas, le cinéma, je n'ai pas assez d'expérience pour le cinéma, donc je ne peux pas te dire si j'aime ça, si c'est ça qui va me brancher ou pas. Moi, ce que j'aime, c'est jouer. Donc, alors, tout. Mais ce que j'aime, c'est être vivant. Alors, c'est au cinéma, c'est un problème. J'aime la scène, j'aime le théâtre. Alors, si tu veux, si c'était mon goût, si c'était mon pouvoir aujourd'hui de décider de ce que je veux vraiment faire, ce serait naturellement le tour de chant, parce que ça ne bouge pas. Mais ce serait plus le théâtre, l'aspect vivant, que le cinéma ou la télé ou le truc comme ça. Ou là, si tu veux, la seule expérience que j'ai faite avec Marcel, que j'adore, qui est un ami. Bon, mais c'était un film d'assaut, donc au revoir.
Un conte de fées, un petit conte de fées tout rose,
où je faisais pas un personnage, j'étais rien. Je faisais moi-même pendant 8 jours, donc c'était pas... Je peux pas dire que j'ai joué la comédie. Mais je me suis bien marré, ça c'est le principal. Mais si tu veux, tu ne sais pas ce que tu donnes, tu ne sais pas ce que t'envoies, tu n'as pas la réaction en face, tu n'as pas... c'est vraiment un autre monde. Tu commences dans le silence, déjà. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Travailler dans le silence, pour moi, c'est épouvantable. Tu n'as pas de souffle, tu as quelqu'un qui te prend à tel moment, tu fais ce qu'il te dit, en fait. Tu es une chose. Bon, alors maintenant, le talent d'un acteur, justement, c'est là où on voit qu'il y a un bon acteur et un mauvais acteur, c'est qu'avec tous ces handicaps-là, il fait passer sa personnalité ou pas. Mais moi, disons que je ne peux pas t'en parler maintenant, c'est trop tôt. Je vais voir avec le louche là, ça va être dans un autre contexte et ça va être autre chose. En plus, le louche laisse bien aller les gens. Mais j'ai pas d'expérience suffisante pour te parler du cinéma. Par contre, la sensation que j'ai en scène, aucun acteur de cinéma ne l'a et ne l'aura jamais. Et je suis sûr que si les acteurs de cinéma pouvaient avoir la sensation que nous, acteurs de musical, on a, mais ils quitteraient tout de suite le cinéma pour venir à notre place. Ouais. On a un accueil, on a des gens, on est porté, on est... siffler, ça arrive, on rame, on se barre.
On n'est pas seul.
On n'est pas seul, voilà.
Et pourtant, on parle de la solitude du chanteur de fond.
Hein. Non, mais c'est faux.
C'est faux.
C'est faux, parce que les gens sont pratiquement synchrones avec nous, pratiquement, ils chantent en même temps. Et ça, c'est la solitude du chanteur, ou alors c'est un chanteur seul.
sans public. Alors, avec le loup, justement, il y a une extraordinaire complicité qui est en train de s'établir, j'ai l'impression. Vous étiez fait pour vous rencontrer?
Je ne sais pas. On s'est rencontrés, ce qui est déjà bien. Moi, j'aime bien Claude parce que c'est un artiste, c'est un sanguin, c'est un homme de vie, c'est un homme d'amour, passionné aussi. Donc, alors, je crois qu'on peut que bien s'entendre. Maintenant, j'ai jamais travaillé avec lui et je ne sais pas comment il regarde, comment il voit.
Ben, tu peux peut-être le savoir. Là, on va l'écouter.
Je perçois chez lui effectivement aussi des défauts qui sont à l'opposé de ses qualités et qui font qu'on a toujours les défauts de nos qualités et l'inverse. Hein. Donc il est certain que ça doit pas être un homme facile à tout moment. Et donc tout ça ne doit pas se faire forcément dans la facilité. Hein. C'est sûrement un homme très, très difficile parce qu'il est exigeant. Et donc s'il est exigeant avec lui-même, il l'est avec les autres. Mais je crois qu'on peut le mettre dans la catégorie des hommes, des vrais, hein, et non pas des machos. Je veux dire, celui qui donne l'image d'un macho, ça lui plaît, ça, pour que justement ceux qui sont très perspicaces et très observateurs voient autre chose que le macho.
Exact.
Exact. Donc, lorsque tu as voulu imposer une image de macho, peut-être aussi avec des lunettes noires...
C'est la plus belle image du monde, enfin. Pourquoi on est là en train de s'excuser d'être des hommes ou de ne pas être des hommes ou de... Ça ne veut rien dire, le macho, c'est un mot qui est arrivé, qu'est-ce que tu veux donner comme image? À partir du moment, tu comprends, ce qui me fait rire, c'est quand les gens nous voient et nous mettent une étiquette sur la tête. Ce sont des gens qui nous connaissent pas déjà, en général, qui nous mettent les étiquettes. Alors macho, c'est quoi? C'est parce que je rentre sur une scène éclairée et qu'évidemment, j'ai une attitude. Tu veux que je rentre sur scène? Je vais pas rentrer sur scène en m'excusant d'être là. Je vais pas non plus dire... je suis pas timoré, autrement je ferais pas ce métier-là. C'est un métier d'exhibitionniste, on exagère les gestes, on exagère la voix, on exagère les yeux, on exagère tout. Alors évidemment, si tu dis c'est le même, je rentre pas dans ma chambre, je te le jure, comme je rentre au Palais des Congrès. J'ai pas l'orchestre en dessous, j'ai pas les lumières, je rentre normalement et je me conduis normalement. Alors, l'image de macho, évidemment, c'est quoi macho? C'est un type qui rentre et qui est un homme, qui fait ce qu'il peut, qui dit qu'il en a pas honte et puis qui j'attaque. Mais bien entendu que dans la vie, je suis pas du tout comme ça. Mais je suis pas non plus...
Une femmelette.
Non. Alors évidemment, c'est macho. Ben, je suis très content. Moi, je suis ravi d'être macho. Je trouve ça fantastique.
Oui, je crois qu'il y a un contresens sur le mot. On a cru que ça voulait dire mufle, moi, je crois.
Oui, c'est ça. Il y a une connotation qui est péjorative. Pourquoi Bon, puis en plus, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas d'homme courageux, je veux dire... Tout le temps, il n'y a pas d'homme tout le temps, on a tous des faiblesses, on a tous à un moment donné, on pleure tous à un moment donné, je crois qu'il n'y a pas plus sensible qu'un homme, plus douillet que moi, ça n'existe pas, plus... Mais c'est vrai, bon,
mais tu as pleuré, pourquoi? Parce que tu t'es fait un bobo ou parce que tu
as... Oui, pour des tas de choses, je pleure au cinéma, je pleure aussi en sanglots au cinéma, je ne vais pas voir certains films parce que je sais que ça va me rendre malade pendant 8 jours.
La déchirure, par exemple?
Je ne l'ai pas vu, la déchirure, mais je me rappelle de Kramer contre Kramer, c'était Jeanne Moreau qui m'avait... Tiens, chez Claude Lelouch, ça s'est passé, ça, dans la salle privée, là où on voyait en projection, en avant-première, le film. C'était un matin, en plus. Elle me traîne là-bas, elle me réveille, elle me dit, viens voir ce film, parce qu'elle me disait macho aussi. Bon, je suis sorti bouleversé, moi, du film, mais complètement renversé. Ça me rend malade, je peux pas aller voir ça. Alors donc, le macho, il a quand même les ailes mouillées, il est pas toujours... Mais c'est une image fausse, une image complètement ridicule. C'est comme dire une femme-femme. C'est pareil.
Michel Sardou, grand format, on cherche comme ça, à travers des gros plans, photos, images, sons, à en savoir un peu plus sur vous. On se tutoie depuis une heure, que les auditeurs me pardonnent. C'est pas du tout dans l'habitude des...
Non, mais c'est plus sympathique, on se tutoie dans la vie. Alors,
oui.
Écoute,
on ne cache rien, on ne ment pas. Tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'être en accord avec l'image publique et l'image privée. C'est la difficulté du chanteur, de l'homme politique, enfin de tous les personnages publics, homme ou femme.
Je ne prends pas ça comme une difficulté. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence Si tu veux, l'artiste qui me dit je suis artiste de 8h du soir à minuit et après je suis quelqu'un d'autre, je n'y crois pas du tout. Tu ne vis que dans ton métier, que pour ce métier-là. C'est une... Tu es malade si on ne parle pas de toi. Tu es... si tu sens qu'on te lâche un peu, que le monde... On est complètement égocentrique, on est complètement mégalo. Ou alors, il faut pas le faire, ce métier-là. Hein. C'est même pas la peine de...
Il faut aussi avoir du culot pour le faire.
Il faut du culot, il faut...
Faut pas être timide.
Il faut pas être... Ça, la timidité, c'est autre chose. La timidité se transforme. La timidité, c'est quelque chose d'accessoire. Mais je sais que pour faire ce métier-là, il faut être... Quand même avoir un caractère... précis, bien à part quand même. C'est quand même pas le, mais je dis pas que c'est le plus beau métier du monde, je le pense pour moi personnellement. Il y en a d'autres où c'est pareil, la politique c'est pareil. Je parle de ce que je connais. Je ne crois pas à l'homme, à l'artiste qui me dit moi je suis artiste de midi à 7 heures et après je suis monsieur tout le monde. C'est pas vrai, parce qu'il ouvre son journal, s'il n'est pas dans le journal il est vert, il regarde la télé s'il n'est pas dans le hit parade ou dans un... il devient complètement... Bon, on est complètement égocentrique, c'est tout le temps comme ça. Donc la difficulté, elle n'existe pas. On est sur scène tout le temps, avec des moments de pause, avec des moments de vacances, avec une famille. Mais la famille est artiste aussi, vit au rythme des galas ou des films ou des succès ou des échecs. Mais tout le monde en profite dans la maison. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je ne crois pas à l'artiste sur commande. Moi, je sais que tout ce que je fais a une répercussion dans ma vie familiale.
Alors justement, quand tu composes, prenons l'exemple avec Pierre Delanoë, est-ce que tu peux composer sur commande ? Parce qu'il faut bien des temps de réflexion, d'élaboration. Vous vous rencontrez, vous vous donnez rendez-vous. Comment ça se passe ?
Oh, écoute, c'est au hasard. S'il y a des commandes, on travaille. On travaille sur, pas sur commande, mais on a des périodes. On se dit... par exemple, quand arrive le mois de mai, on sait que ça commence déjà, il faut que on commence à mettre de l'encre dans l'encrier, disons, ça commence. On sait qu'en juin, on va écrire quelque chose, parce qu'en septembre, on marche comme ça. Puis d'un autre côté, on écrit chacun, tous les jours, je pense, des idées qu'on griffonne, qu'on met dans un coin, dont on se resserre. Et en général, on est face à face, on travaille ensemble. On s'entend pas toujours, hein. C'est pas toujours, on est rarement du même avis, même quoi qu'on aille dans le même sens. Mais on tu sais, c'est les gaullistes et les pas gaullistes qui sont quand même gaullistes.
Gaullistes de gauche.
Et voilà, non même pas. Deux gaullistes vrais, mais un qui a connu De Gaulle et l'autre pas. Ça change tout et on n'arrête pas de s'engueuler.
Est-ce que travail est un mot qui convient bien d'ailleurs à ces rencontres?
Oui, travail. Oui, non, ça convient pas. C'est pas vraiment du travail.
Bon, écoutons Pierre Delanoë.
En général, il ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un. Moi, je suis un besogneux.
L'ordure.
Je suis un type travailleur. C'est-à-dire que je prends quelque chose et je ne lâche pas tant que je n'ai pas réussi à sortir quelque chose qui est une consistance. Alors que Sardou, lui, ça sort ou ça sort pas. Voilà. Alors c'est le mot travail n'est pas exactement le mot qui convient, mais j'avoue ne pas en trouver d'autres, parce qu'on peut pas dire non plus qu'il s'amuse, ça serait péjoratif et trop léger. Quand ça vient, ça vient, et quand ça vient pas, bah, il fait rien.
Et c'est la vie, mon petit boulet.
Voilà.
Non, mais ça, c'est vrai. Ça le fout en colère, d'ailleurs. Ça l'énerve. Parce que lui, il finit vraiment les chansons. C'est-à-dire, il va jusqu'au bout de l'idée... Quoi qu'il arrive. Alors, ce qui m'étonne même des fois, c'est qu'il va au bout de trucs où on sait que ça ne sortira pas
de la chambre.
De la chambre, oui. Et il va au bout. Il a une discipline, Pierre. Moi, j'en ai pas. Il a une discipline de travail, mais aussi, son métier n'est pas le même que le mien, aussi. Lui, bon, c'est un homme qui a écrit je ne sais pas combien de centaines de chansons maintenant pour tous les artistes de France et d'ailleurs.
C'est un grand couturier.
Il s'adapte, oui. Il s'adapte au style de chacun avec une... Et il fournit à chacun. Moi, je suis incapable d'écrire des chansons pour les autres, sauf alors vraiment un élan comme ça, une idée qui vient, mais je ne saurais pas écrire sur commande. On me donne un titre, on me donne un truc, je ne saurais pas le faire.
C'est jamais arrivé encore.
Si, ça m'est arrivé de faire des chansons, mais alors très très peu. Je crois que j'ai dû en faire deux dans ma vie pour des gens. J'en avais fait pour Johnny, qui n'a jamais chanté d'ailleurs. Et j'ai dû en faire une, je crois, il y a très très longtemps pour Dalida, et une pour Sylvie Vartan. C'est tout. Et en plus, je ne sais pas écrire au féminin, moi. Mais Pierre, c'est vrai, il a raison, c'est pas du travail.
Et femme des années 80, qui a...
C'est Delanoë et moi.
Oui. Et ça, c'est pas une écriture au féminin ?
Eh non, puisque je parle des femmes, mais
oui,
je
mais
voudrais
tu
être...
Oui, mais tu es une femme. femme, être une femme.
Être une femme, oui, mais avec tous les mots d'homme et tout ce que, tous les fantasmes. Et encore, je me suis retenu parce qu'il y avait Delanoë qui veillait au grain.
Elle est fantastique, cette chanson. Mais c'est ma chanson préférée. Je crois avec Les Lacs de Connemara, très différent. Mais...
Il a raison, c'est pas du travail, au fond. On travaille pas. C'est vrai, hein. C'est pas l'idée qu'on peut s'en faire.
Michel Sardou, grand format, toujours. La photo se précise, on voit le grain de la peau. Là. À propos de photo, d'ailleurs, elle a fait couler beaucoup d'encre, cette photo triste, où tu n'avais pas le sourire. Tu sais, la photo avec les lunettes noires, tu étais devant une espèce de fêlure, une photo de Mireille d'Arc, je crois, qui était l'affiche d'un palais des congrès.
Oui.
Je ne sais pas, tu as dû parler de ce choix, mais j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu avais choisi de montrer un visage triste qui est, d'ailleurs, paraît-il, souvent le tien.
Oui, je suis pas... j'ai un visage triste devant les photos. Même dans la vie, d'ailleurs, non, je ne suis pas gay. Je suis pas un visage gay. Je ne fais pas hurler de rire les gens quand ils me croisent dans la rue, c'est vrai. Mais enfin, je ne suis pas triste au fond. Tu comprends ce que je veux
très
dire?
Très bien, très. Par exemple, ton amitié avec Barclay, qui lui fait la fête en permanence. Toi aussi, tu fais la fête, mais lui, bon, il rit tout le temps, et c'est peut-être le reproche qui pourrait te faire, d'ailleurs, ton ami.
Quelquefois, il oublie de sourire et de s'amuser, d'être détendu, mais je crois que c'est dû, en réalité, au fait qu'il soit tellement axé sur sa profession de chanteur et de vedette que... Quelquefois, il
n'a
pas le temps de se détendre, en fait.
Ah non, c'est pas ça non plus. Non, parce que quand j'étais gosse, j'aimais pas les photos non plus. Et je faisais la gueule aussi sur les photos. J'aime pas, d'abord, je n'aime pas faire de photos. Ça, c'est mon problème. D'ailleurs, j'ai pas choisi d'être mannequin, j'ai choisi d'être chanteur. J'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on me vole quelque chose. Je n'aime pas. D'abord, j'aime pas ma gueule. C'est très important, ça. Il y a des gens qui sont très fiers de leur gueule, qui sont très contents, qui sont narcissiques, qui sont là, qui collent leurs photos partout, qui se regardent. Moi, pas du tout. J'ai très peu de... Les photos que j'ai à la maison, je n'y suis jamais parce que c'est moi qui les prends. Les films en Super 8, ou je ne suis jamais dessus. Je ne suis pas un fou de ma gueule et je n'aime pas me voir en photo, etc. Ça, j'ai pas ce goût-là. Bon. Alors ça joue quand on me demande de faire des photos. Parce qu'évidemment, je suis un petit peu mal à l'aise. Je trouve que mon sourire est crispé. Je trouve que... Bon, alors... Ça donne une image qui est complètement fausse, parce que c'est pas ma nature, mais je suis timide devant un objectif. Un objectif qui pique fixe. Hein. Devant une caméra, c'est autre chose.
Devant parce que tu chantes.
Qui a la vie.
Oui.
Et bon, quand je suis...
tu aimes l'image et le son.
Oui, j'aime la vie. Alors bon, ça, c'est un problème. D'un autre côté, dans la vie, c'est autre chose, je suis pas triste ni gay spécialement. D'ailleurs, j'ai des moments de gaieté, des moments de tristesse, des moments d'oubli. Mais ça, je pense que
tout le monde
l'a.
Quand on est une star, un professionnel, que son métier consiste à apporter le bonheur et la vie aux autres, pas le biais de la chanson ou du cinéma, qu'est-ce qu'on fait quand on est mou, vide, malheureux? Ça doit arriver de temps en temps. Je sais pas, tu as frôlé une déprime ou tu as été dégoûté à un moment.
Moi, je crois qu'il faut être ce qu'on est au moment où on est. C'est-à-dire. C'est déjà un métier de transposition qu'on fait, puisque c'est pas normal de se mettre à poil devant des gens. C'est une image, mais je veux dire, de venir vous demander à un type normal dans la rue de monter sur une table et de chanter devant une terrasse de café, il va vous dire pourquoi faire. C'est un truc, il faut déjà avoir envie de se montrer. C'est déjà un jeu, ce métier, c'est déjà un jeu par lui-même. Donc, c'est pas la peine d'en jouer d'autres à l'intérieur. Le jour où vous êtes bien, vous êtes bien. Le jour où vous êtes triste, vous êtes triste sur scène ou ailleurs.
Mais tu peux chanter, tu peux être triste devant 3000 personnes.
Bien sûr, on peut avoir... on peut être... Mais il faut être ce qu'on est. Ce jour-là, il y a des jours, effectivement, moi, j'ai eu une période où ça allait pas très bien. Qu'est-ce que vous voulez, je chantais quand même mes chansons, parce que ça, c'était mon truc. Et puis, ça ne me dérangeait pas. Mais enfin, disons, je le faisais pas avec la même fougue que quand on est comme un sportif. Il y a des hauts, des bas. Il n'y a pas la forme toujours à 100%. Donc, ce jour-là, je pense que les gens ont dû dire, tiens, il est un peu malade ou il a un problème, ou il a mal aux dents, je sais pas, mais...
Oui, mais t'avais pas mal aux dents, t'avais mal à l'âme.
Oui.
Et qu'est-ce que tu as fait, là? Tu as pris des médicaments?
Attendu, non.
Rien, aucun médicament, jamais?
Non, j'ai attendu que l'âme revienne, c'est ce qu'il y a à faire quand on a mal à l'âme. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire, il faut attendre que ça se passe, c'est tout. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus...
Se complaire.
Oui, il ne faut pas en faire une pendule. Moi, je pense que la seule solution, c'est d'être... presque soi-même tout le temps, avec ses défauts. Alors ça, c'est bien, parce qu'au moins les gens savent à qui ils s'adressent avec moi. Ils savent que bon, au niveau de la réunion, apparemment, je parle pas sur scène, je dis pas trop de choses, mais je suis pas focus pour ça. Au moins c'est ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est le type qui a l'air vachement sympa, très souriant, qui embrasse les enfants, et en fait, c'est une ordure. Ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur du faux sympathique. Je préfère au moins un mec, moi, qui est peut-être pas très, très abordable tout de suite, mais qui est une pièce, un homme qui est gentil, en fait, dans la vie, qui est normal. Mais le faux cul qui vient vous signer des photos en disant ton prénom, ma chérie, et comment va ta fille, et tout, qui se rappelle, ça, j'y crois pas une seconde. Ça, j'aime pas ça. Je préfère la vérité. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens charmants aussi, hein, c'est, ça veut pas dire ça. Mais faut être soi-même. Bon, moi, j'ai un abord sévère comme ça, une tristesse qui me vient de je sais pas d'où, de Bohème, peut-être. Mais j'ai ma tristesse avec
d'Italie,
moi.
D'Italie, d'origine italienne, quand même.
Oui, mais enfin, je suis plus barbare qu'italien. Hein. Je suis plus, plus Europe que je suis un sudiste de la fin de l'Empire.
Tu collectionnes toujours les livres sur l'Empire?
Je vends tout.
Ah bon?
Ah, je vends tout, là. Je sais plus où les
vends.
Mettre.
T'as besoin d'argent?
Presque.
Non, c'est vrai, l'argent. Ouais, où en es-tu, là, aujourd'hui?
Je suis raide. Je te jure, je suis raide. Personne ne me croit, même mon percepteur, il est mort de rien. Je suis raide comme un passe-lacet.
Non, mais est-ce que tu es raide parce que tu es prévoyant, tu es fourmi, tu penses à ta famille, à ta femme, à tes enfants, à tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment...
Je suis raide. Entre les impôts, les frais, les machins.
Ah bon?
Je suis raide. Mais ça va.
T'as pas de contrôle fiscal?
Ça va arriver, là. Justement parce que je suis raide et que je peux plus les payer.
Tu sais, quand tu étais petit, l'argent comptait, paraît-il, beaucoup pour toi.
Quand il était tout petit, mais tout petit, alors vraiment, il marchait à peine, on ne sait pas pourquoi, il s'était roulé devant une pâtisserie, il voulait des gâteaux, et je ne voulais pas qu'il en mange, bien sûr. Alors il se roulait par terre, et puis on prend l'autobus, et comme il me demandait toujours ces fameux gâteaux, ben je lui dis, écoute, je ne peux pas t'acheter des gâteaux, j'ai pas de sous. Alors ça, celle-là cloué sur place. Il me fait, t'as pas de sous? J'ai dit, non, j'ai pas de sous, je peux pas acheter des gâteaux. Alors là, ça m'avait complètement suggéré. Et ça l'a calmé tout de suite. J'ai dit, j'ai trouvé un bourgeois, la prochaine fois, à chaque fois qu'il me demandera quelque chose, je lui dirai, j'ai pas de sous. Mais ça lui faisait de la peine, parce qu'il se rendait compte quand même que ça devait être un grave problème de ne pas avoir de sous pour acheter un gâteau. C'est très, 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 très mignon.
C'est ça, mais mon fils aussi est comme ça. Il s'imagine que l'argent, on le fabrique, oui.
Alors aujourd'hui, tu peux pas penser que l'argent, tu vas le retrouver? Tu fais un gala de plus? Tu tournes un film moins bon, moins parfait?
Il faut
une pub?
Oui, non, mais ça...
Tu le ferais, ça? Tu ferais une pub pour... puisque beaucoup de très grands...
Alors, je vais te dire très simplement, c'est une question d'argent,
oui.
Si c'est de la publicité. Oui. Parce que bon, autrement, ça n'a aucun intérêt, je veux dire, sauf si c'est mon produit. Alors là, bon,
oui.
Mais là, ça, je suis complètement d'accord avec les acteurs et les chanteurs qui font de la pub, parce qu'au moins, ça paye une partie des impôts, ça aide. Ça, c'est très, très
alors,
bien.
Alors, cherchons, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme pub? Pour quelle marque? Pour quelle sensité de marque? Mais pour une voiture? Parce que Paris-Dakar...
Moi, je ferais tout, sauf les trucs ridicules, c'est-à-dire... il faut que ça soit quand même un peu marrant, tu vois. Bon, oui, je veux pas citer de marque, parce que c'est ridicule, mais... Il y a des publicités particulièrement cons, mais il y en a qui sont bien faites, par contre, maintenant.
Bon, alors, s'il y a un très grand réalisateur, puisque tous les grands
Non, mais je ne mets pas de je
non, fais tu sais, tu lances
moi,
pas
une
annonce.
C'est une question d'argent. S'il y a un sponsor qui me dit, voilà, le paquet, alors là, je dis, alors là, avec joie, je vous fais une pub sans problème.
Eh bien, c'est sur une photo publicitaire, peut-être, que se referme cet album de portraits grand format consacré aujourd'hui à Michel Sardou. Merci, Michel. Je crois qu'on a parlé vraiment à cœur ouvert. Je te remercie beaucoup.
Non, c'est rien.
Le tu était complètement inhabituel. Je ne sais pas, je ne serai peut-être pas là dimanche prochain. Alors
pourquoi?
On va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce ton, Evelyne?
Ben c'est un ton normal, c'est le temps de la vie.
C'est le temps de la vie. Bon, merci Michel. Donc, le projet le plus immédiat, je sais que c'est un gala, c'est une série de concerts au Canada.
Oui, pas vraiment, c'est un show télé.
Un show.
Un show télé, oui.
Un super show.
Après, hein. C'est le film de Lelouch.
Qui s'appelle 20 ans déjà.
C'est ça.
Alors, on n'attendra pas 20 ans pour recommencer. Hein.
J'espère.
Au revoir, Michel.
Salut.